Biotine, l'émission de vulgarisation scientifique de Graphite.
Eh bien, tout est dit avec ce générique. Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez sur le 94.9 sur la bande FM et graphite.net sur Internet. Je m'appelle Jean-Noël, je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission que j'ai la chance, le bonheur de pouvoir vous animer toutes les semaines sur l'antenne de Graphite, tous les samedis entre 12h et 13h et la rediffusion le mardi matin à 10h. On feuillette ensemble un petit peu la revue de presse de l'actualité scientifique. Pas mal de choses encore à évoquer dans cette émission d'aujourd'hui. 31 janvier, au niveau de l'éphéméride, pas mal de choses. Déjà en 1895, Lord Rayleigh et Sir William Ramsay communiquent officiellement sur leur découverte d'un nouvel élément chimique, c'est l'argon. En 1895, ils communiquent ça à la Royal Society. Donc voilà, la découverte de l'argon en 1895. 1961, c'est le chimpanzé Ham qui est le premier hominidé à être envoyé dans l'espace extra-atmosphérique lors de la mission Mercury Redstone 2. C'est en 1961 et 10 ans après, 1971, c'est le lancement de la 8e mission habitée du programme Apollo. C'est Apollo 14. Alors ça commencera à être un peu la fin au début des années 70 de toutes ces missions habitées du programme Apollo sur la Lune. Et on voit très bien que l'actualité récente nous montre de plus en plus qu'on va y retourner sur la Lune. C'est une question maintenant de, j'allais dire d'années, oui, de petites années, de quelques dizaines de mois sûrement, parce qu'on voit très bien qu'il y a une véritable course pour retourner sur la Lune. On parle de 2028 pour retourner sur la Lune au niveau des Américains, 2030 pour les Chinois. C'est une véritable course qui se met en place actuellement. Naissance, le 31 janvier 1881, Darwin Langmuir, c'est un chimiste et physicien américain. En 1932, il est le lauréat du prix Nobel de chimie pour ses découvertes et ses recherches en chimie des surfaces. En fait, il va travailler sur pas mal de choses, notamment sur des nombreux champs de la physique et de la chimie. Il va travailler sur les phénomènes liés au vide, sur les mécanismes atomiques et moléculaires, sur les films absorbants, sur les décharges électriques dans les tubes à gaz basse pression. Irving Langmuir est donc né le 31 janvier 1881. Décès le 31 janvier 1954 d'Edwin Howard Armstrong. Tiens, Armstrong. Eh bien, c'est encore un autre Armstrong qu'on connaît peut-être pas trop, qui est un ingénieur et un inventeur américain. Il a été avant tout le père malheureux de la technique de diffusion radiophonique appelée modulation de fréquence, qui s'est développée d'abord aux États-Unis, puis progressivement dans le reste du monde. Sa manière de travailler mettait en avant l'expérimentation et le raisonnement. Et donc Edwin Howard Armstrong se méfiait des déductions trop théoriques et trop abstraites. Ses combats et ses procès avec l'industrie de l'électronique ont eu raison de lui, parce que désespéré devant la débâcle où l'avait conduit son immense travail, eh bien Armstrong finit par se jeter de la fenêtre du 13e étage de son appartement de New York le 31 janvier 1954. Et sa veuve Marion, elle va reprendre le combat et elle va finalement gagné le procès, alors 13 ans plus tard, en 1967. Le travail et le génie d'Armstrong s'est depuis révélé, puisque l'AFM, c'est aujourd'hui une technologie de radiodiffusion très largement utilisée à travers le monde. Et donc c'est grâce à lui, grâce à Edwin Howard Armstrong, que vous nous écoutez sur la bande FM de 94.9, notamment si vous écoutez Graphite dans l'Aisne, l'Oise, la Somme, bien sûr. Voilà, Edwin Howard Armstrong, décédé le 31 janvier 1954. Alors, il y avait deux articles que je trouvais intéressants parce que ça nous ramenait un petit peu dans l'histoire avec deux découvertes assez intéressantes. Alors, le premier, je vais passer par celui-ci. Contrairement à ce qui est fréquemment dit, l'homme ne descend pas du singe. La lignée humaine et celle des chimpanzés ont en effet évolué de manière parallèle au cours des derniers millions d'années, tout en faisant partie de l'ordre des primates et de la famille des grands singes. proches. Nous ne sommes donc pas des descendants de ces autres espèces, mais plutôt des cousins éloignés. Toutefois, il est évident que ces lignées convergent dans le passé vers un ancêtre commun. Mais qui était-il ? Ben voilà une grande question que les anthropologues et les archéologues n'ont pas encore réussi à résoudre, même si chaque découverte aide à mieux caractériser cette espèce de carrefour crucial dans l'arbre évolutif. La principale difficulté vient du fait que les tout premiers représentants de la lignée humaine, donc les tout premiers hominidés, devaient être relativement semblables à leurs cousins des autres lignées de grands singes. Et pour les chercheurs, bien plus que le volume du crâne, le critère majeur permettant de les différencier est l'utilisation régulière de ce qu'on appelle la bipédie. En d'autres termes, même si nos plus lointains ancêtres humains vivaient encore majoritairement dans les arbres, ils étaient capables de se déplacer régulièrement sur deux jambes. L'avantage de ce caractère distinctif est qu'il présente des marqueurs anatomiques précis qui peuvent être observés dans les restes de fossiles, par exemple. Cependant, plus on remonte dans le temps, plus ceux-ci sont rares, bien évidemment, on parle des fossiles, et ils sont souvent incomplets, ce qui entretient une espèce de flou qui règne encore aujourd'hui sur l'origine de la lignée humaine. En 1974, c'est la découverte d'un spécimen fossile nommé Lucie. On se souvient de Lucie. Ça a totalement bouleversé notre perception des origines humaines en révélant que l'espèce Australopithèque était déjà clairement bipède il y a plus de 3 millions d'années. Notre plus vieil ancêtre humain se situe donc encore plus loin dans le passé. Et bien c'est finalement la découverte de Toumaï en 2001 qui va révéler à quel point la divergence de la lignée humaine est potentiellement ancienne. L'analyse initiale du crâne de ce spécimen appartient à un ancêtre dont le nom, je ne vais pas me lancer là-dedans, mais en tout cas qui est âgé de 7 millions d'années. Et cette analyse a en effet rapidement laissé penser que cette espèce possédait déjà une posture bipède tout en étant principalement arboricole. Toutefois, cette conclusion a été remise en question par plusieurs études qui ont eu lieu après, qui ont porté sur les os de ces avant-bras et du fémur. Il y a certains chercheurs identifiant plutôt des caractéristiques de la lisière de la lignée des panines qui ne sont pas associées à une espèce de bipédie humaine et qui laissaient la question suivante qui était totalement ouverte. Est-ce que Toumaï était-il un ancêtre des chimpanzés ou des humains ? Eh bien, une nouvelle étude récente, publiée dans la revue Science Advances, apporte de nouveaux éléments qui penchent sur la seconde option, c'est-à-dire que cette étude confirmerait que Toumaï était bien un bipède. L'analyse apportée, comme les précédentes études sur les os des bras et de la cuisse, et ceux-ci ont été comparés à des espèces vivantes et fossiles et ont subi une analyse morphométrique en 3D, une méthode qui permet d'analyser les formes des os avec un niveau de détail assez fin. Donc on est vraiment sur une technologie un petit peu plus précise, on va dire. Les observations ont mis en évidence trois caractéristiques généralement associées à la bipédie chez les hominidés. La présence d'un tubercule fémoral qui sert un petit peu de point d'attache pour relier le bassin au fémur. Il y a également une torsion naturelle du fémur qui permet aux jambes de se diriger vers l'avant pour faciliter la marche et la présence de muscles fessiers qui vont un petit peu stabiliser les hanches et faciliter la posture debout, faciliter la marche et la course. De plus, Toumaï possédait un long fémur par rapport à l'os de l'avant-bras, ce qui est généralement une caractéristique des hominidés, les singes qui possèdent à l'inverse des bras plutôt longs et des jambes courtes. Alors bien que son apparence globale et son mode de vie s'apparentaient certainement bien plus aux chimpanzés actuels ou aux bonobos, cette espèce était donc bien un homininé, une espèce humaine, primitive et pour l'instant notre plus ancien ancêtre connu. Donc les chercheurs ne doutent plus, Toumaï marchait debout et ça change un peu tout. Hein. C'est une découverte assez récente et quelque part cette nouvelle étude pourrait enfin révéler la véritable place de Toumaï dans notre histoire de l'évolution de l'homme. C'est assez intéressant. On parle pas très souvent dans cette émission de tout ce qui et anthropologie et archéologie, mais là je trouvais que c'était un article assez intéressant. Deuxième chose, toujours si on regarde un petit peu en arrière, il y a d'autres recherches qui ont été menées avec des découvertes assez intéressantes. Nous sommes cette fois en Afrique du Sud, dans la province du KwaZulu-Natal. C'est un site archéologique vraiment important et majeur. Il est occupé de manière répétée depuis près de 100 000 ans et il offre une espèce de stratigraphie assez remarquable. L'idée, c'est qu'on peut avoir une succession des niveaux qui témoignent de l'évolution des comportements humains sur le très long terme. Donc c'est ça qui est aussi intéressant avec ce site. Un site qui est notamment connu pour ses assemblages d'outils en pierre, caractérisés par de petites lames qui sont finement façonnées, qu'on appelle des microlithes. Et donc depuis plusieurs décennies, ces objets, ils intriguent un peu les chercheurs parce qu'ils sont trop petits pour infliger des blessures mortelles à eux seuls. Ils sont pourtant interprétés comme des pointes ou des espèces de barbelures de flèches. Et l'hypothèse d'armes empoisonnées, elle semblait plausible mais n'avait pas été prouvée parce qu'on n'avait pas des preuves matérielles qui avaient été conservées. Donc sur certains de ces microlithes, donc ces petites lames, il y a des minuscules résidus brunâtres qui étaient encore visibles à l'œil nu. Il y a donc une équipe d'archéologues suédois et sud-africains qui ont travaillé, ils ont prélevé ces traces avec une extrême précaution et puis ils les ont analysées avec une technique de pointe qui est la chromatographie en phase gazeuse. Donc c'est l'idée d'avoir vraiment une connaissance vraiment fine des composants. Et cette méthode, elle permet de séparer les molécules présentes dans un échantillon et de pouvoir les identifier grâce à la signature chimique, même lorsqu'il n'y a que des petites traces. Donc c'est ça qui est quand même assez intéressant. Et les résultats de leur analyse qui ont été publiés dans la revue Science Advances ont mis en évidence la présence d'alcaloïdes toxique sur 5 des 10 échantillons analysés. Les alcaloïdes, ce sont des substances naturelles qui sont produites par certaines plantes, souvent pour se défendre contre les herbivores, par exemple. Il y a la caféine, la nicotine, la morphine, sont des exemples qui sont bien connus. Alors ici, les molécules proviennent très probablement d'une espèce de plante locale qui est historiquement utilisée comme poison de chasse en Afrique australe, qui est le Boophon dichita. La répartition des résidus sur ces microlithes est tout aussi parlante parce qu'ils se concentrent sur les zones destinées à être fixées à une hampe, ce qui confirme en fait que ces petits outils faisaient partie de flèches qui étaient intentionnellement enduite de poison. C'est ça la découverte assez intéressante. Donc contrairement à une idée reçue, les flèches empoisonnées ne sont pas conçues pour tuer instantanément. Le poison, extrait du bulbe de cette plante locale agit de manière progressive et une fois introduit dans l'organisme de la proie, eh bien, il provoque un affaiblissement musculaire, des troubles respiratoires, une perte de coordination, puis une paralysie qui peut mener jusqu'à la mort. On est sur quelque chose d'assez progressif. Et donc l'animal touché peut encore parcourir plusieurs kilomètres avant de succomber, ce qui laisse au chasseur le temps de le suivre et de l'épuiser. Alors cette stratégie, elle permet de chasser des animaux bien plus grand que l'homme, sans nécessité d'affrontement direct ni de blessures profondes. Alors, elle suppose toutefois une connaissance fine du poison, de son dosage, de sa préparation, et puis une connaissance aussi du comportement des animaux qui sont touchés. Et donc, utiliser une substance invisible dont les effets sont différés, ça implique de raisonner en matière de cause à effet, d'anticiper, de planifier sur la durée. Donc, c'est des découvertes assez bouleversantes parce que on voit très bien que déjà à l'époque, on avait énormément de connaissances dans ce domaine-là. En rapportant la première preuve directe de l'usage de flèches empoisonnées il y a 60 000 ans, eh bien, cette découverte révèle que les chasseurs-cueilleurs de l'époque du Pléistocène maîtrisaient déjà des savoirs complexes, fondés sur l'observation, fondés sur l'expérimentation, fondés aussi sur la transmission culturelle. Alors on est loin d'une image de cette espèce d'humanité un peu primitive. Elle montre en fait des sociétés qui sont capables d'exploiter la chimie du vivant, donc c'est quand même assez fascinant, bien avant bien sûr l'invention des laboratoires modernes. Mais c'est une découverte qui est quand même assez troublante et qui apporte un éclairage nouveau sur cette époque et sur ces populations qu'on appelle primitives, dans le sens peut-être, on va dire, premiers, parce que c'était les premières, mais pas nécessairement, comment dire, sottes, entre guillemets. Enfin, elles avaient une véritable connaissance totalement élaborée pour des techniques de chasse, bien évidemment. Donc voilà, c'était deux informations qui nous ramenaient un petit peu en arrière. Retour au présent avec un petit peu de musique aussi. Sur l'antenne de Graphite, à tout de suite. Bad Boy, c'était Inner Circle sur l'antenne de Graphite.
Jean-Noël Moreau, Biotine, sur Graphite.
Alors, on va revenir un petit peu à notre présent et à la génération Z. Il y a des articles, des recherches qui abordent le sujet de la génération Z. L'optimisme des générations précédentes laisse place au pragmatisme désabusé chez les 12-28 ans actuels. Suzy Welch, qui est professeure à l'Université de New York, formule un constat alarmant sur l'avenir économique des jeunes adultes. Son analyse révèle une rupture fondamentale dans les mécanismes traditionnels d'ascension sociale et de sécurité financière. L'environnement professionnel contemporain bouleverse les codes établis depuis des décennies. Le parcours linéaire associant formation supérieure, emploi stable, progression hiérarchique, eh bien ça appartient désormais au passé. Les entreprises modernes restructurent constamment leurs effectifs, supprimant massivement les postes d'encadrement intermédiaire qui constituaient autrefois les étapes naturelles de l'évolution de carrière. Cette transformation structurelle impacte directement les perspectives d'avancement des nouveaux entrants sur le marché du travail. Les responsabilités augmentent sans contrepartie salariale équivalente, ce qui crée un déséquilibre entre les attentes professionnelles et la réalité économique. L'intelligence artificielle accélère aussi cette mutation en automatisant progressivement des métiers qualifiés traditionnellement bien rémunérés. Et parallèlement, eh bien, l'explosion du coût de la vie rend inaccessibles les symboles classiques de la réussite économique. L'accession à la propriété immobilière, qui était autrefois un objectif atteignable pour une classe moyenne éduquée, eh bien, elle devient un mirage pour la majorité des jeunes actifs. Cette situation génère une frustration légitime face à des promesses non tenues. L'inquiétude environnementale amplifie aussi le pessimisme économique de cette génération. Les préoccupations écologiques ne constituent pas simplement un enjeu moral, mais une source d'angoisse concrète concernant la viabilité future de nos sociétés. Et donc cette double anxiété qui est donc économique et climatique façonne une vision du monde particulièrement sombre. Les études supérieures qui étaient jadis garantes d'un avenir prospère, eh bien elles perdent leur valeur d'assurance face à l'incertitude planétaire. Comment investir dans une formation longue et coûteuse quand l'avenir même de la civilisation semble compromis? Bien, cette interrogation existentielle influence profondément les choix de vie et les ambitions professionnelles des plus jeunes. La génération Z développe ainsi une espèce d'approche défensive de l'existence, privilégiant la prudence à l'audace. Et cette posture, qui est souvent interprétée comme de la paresse ou du désengagement, bien, ça reflète en réalité un réalisme adapté aux circonstances contemporaines. Les jeunes adultes adoptent en fait des stratégie de survie plutôt que des projets d'expansion. Cette recherche est véritablement intéressante. Et donc face à cette situation, les dirigeants d'entreprise doivent reconsidérer leur approche managériale. Critiquer l'attitude des jeunes employés sans comprendre leur motivation profonde constitue une erreur stratégique majeure. L'enjeu consiste plutôt à identifier les leviers motivationnels qui vont être adaptés à cette génération un petit peu désabusée. Alors les nouvelles générations, elles recherchent principalement trois éléments dans leur parcours professionnel: du sens dans leur mission quotidienne, des perspectives d'évolution crédibles et transparente, et un équilibre satisfaisant entre vie professionnelle et vie personnelle. Alors, les millennials, ceux qui sont la génération d'avant, et la génération Z représentent 74% de la main-d'œuvre d'ici 2030, selon les projections sont menées. Alors, cette transformation démographique, elle impose une adaptation des pratiques managériales traditionnelles. Et donc les entreprises qui ignorent un peu cette évolution risquent de rencontrer des difficultés majeures de recrutement et aussi de fidélisation. Créer des environnements de travail stimulants nécessite une compréhension fine des aspirations générationnelles actuelles. L'époque où un salaire décent suffisait à motiver les équipes, ça touche à sa fin, parce qu'il y a une espèce de quête de sens professionnel qui devient prioritaire pour une génération confrontée à l'incertitude permanente. Et donc, la professeure Suzy Welch invite à dépasser les clichés sur la prétendue fainéantise des jeunes. En fait, leur attitude reflète plutôt une adaptation logique aux contraintes économiques contemporaines. Et donc cette lucidité qui est donc parfois confondue avec de l'apathie, eh bien ça témoigne d'une maturité précoce face aux défis sociétaux actuels. Et donc le fossé intergénérationnel s'élargit dangereusement entre les baby-boomers qui sont bénéficiaires des 30 glorieuses et leurs cadets qui sont confrontés à la stagnation économique. Et donc comprendre cette fracture, ça constitue un préalable un peu indispensable à toute coopération efficace entre les générations. Et l'empathie remplace avantageusement le jugement moral dans cette démarche de rapprochement. Et donc, reconnaître la légitimité des préoccupations économiques des jeunes adultes ouvre la voie à des solutions constructives et durables. Donc voilà, c'est assez intéressant cet article, et en tout cas cette étude qui a été menée par notamment cette équipe du professeur Welch de l'Université de New York, parce que ils alertent un peu sur l'idée que la génération Z pourrait être la première à vivre moins bien, entre guillemets, que ses parents. C'est quand même assez... assez nouveau et assez révélateur d'une certaine tendance de cette génération Z qui évolue dans un contexte économique sans précédent marqué par l'effondrement des promesses traditionnelles de prospérité. Et donc cette universitaire américaine pointe du doigt cette réalité inquiétante qui est que l'ancienne équation études, travail, stabilité ne fonctionne plus et que cette génération doit faire face à un avenir économique assez incertain. Donc voilà, il y avait je trouvais assez intéressant d'évoquer cet article qui donne un point de vue assez intéressant sur cette nouvelle génération. Autre article alors qui n'a du coup aucun rapport. Je l'avais pas vu ça. Il y avait Tesla qui a proposé aux Français de découvrir la conduite autonome en pleine ville en France. Il y a eu des démonstrations du mode full self driving par Tesla dans plusieurs grandes villes françaises. C'était en décembre. Ça offrait un aperçu réel de ce que promet la conduite entièrement autonome de Tesla. Et donc c'est un petit peu l'occasion d'évaluer une fois de plus si les promesses tiennent la route ou si c'est un simple coup de marketing. Et donc pendant tout le mois de décembre, Tesla a proposé des sessions d'essai gratuits à bord des véhicules équipés de sa dernière version logicielle. C'était à Paris, à Lyon, à Marseille, à Lille, Nantes, Strasbourg et puis dans d'autres grandes métropoles également. Ces démonstrations s'adressaient aux passagers parce qu'il y avait un conducteur habilité qui restait derrière le volant, mais ça permettait un petit peu à Tesla d'afficher ses ambitions, c'est-à-dire la navigation en ville, la gestion des ronds-points, des croisements, la circulation urbaine aussi gérée de façon autonome. Il y a un essai récent qui avait été mis en place et qui avait décrit le comportement d'une Tesla dans la banlieue parisienne. Pendant 40 minutes, il y avait un véhicule qui a pris en charge la conduite, négociant ainsi les intersections, les piétons, les voies étroites. Et il y avait eu seulement deux interventions du pilote qui était toujours derrière le volant, mais le reste était de façon totalement autonome. Pendant 40 minutes, il n'est intervenu que deux fois, donc c'était assez intéressant. C'est un signe, en fait, que ce mode de conduite autonome, le full self-driving, eh bien, approche d'une maturité technologique assez remarquable, du moins dans des conditions relativement favorables. Alors, pour beaucoup, ces essais grandeur nature symbolisent un tournant. La conduite autonome qui est souvent cantonnée à l'autoroute ou à des contextes assez simples, ben ça arrive maintenant de plus en plus dans milieux urbains denses. Et donc pour Tesla, qui a un ambitieux projet de robotaxi, ben c'est une façon de mettre la pression sur les régulateurs européens avant une possible homologation cette année. Mais le scepticisme reste de mise quand même parce que le système de Tesla repose uniquement sur des caméras. Ce qui limite son regard, et c'est un choix que de nombreux experts jugent un peu discutable dans l'environnement urbain, où les piétons, les deux roues, les imprévus aussi, puis toutes ces conditions variées, eh bien, ça exige une redondance des détections. Et de plus, ces démonstrations restent encore des sessions encadrées, réservées à un public qui a été sélectionné. Donc rien ne garantit encore clairement que ce mode de conduite autonome distribuera les mêmes performances dès lors qu'il sera proposé à tous, avec des conditions climatiques variées aussi. Enfin, je veux dire, quand on a vu il y a quelques semaines les conditions météorologiques en région parisienne où il y a 2-3 cm de neige et vous avez 1000 km de bouchons, comment un véhicule autonome se débrouille sur cette situation-là? C'est assez, voilà, c'est assez révélateur. Donc, la conduite autonome de ces véhicules, bon, ça arrive de plus en plus, évidemment. Mais voilà, on fait des essais maintenant. Alors, j'avais pas vu cette information-là, hein, donc j'ai découvert cet article qui fait un petit peu un récapitulatif de ces essais, mais j'avais pas identifié le fait qu'il y avait une campagne d'essais au mois de décembre, parce que je me serais peut-être inscrit en clair. J'aurais bien voulu voir concrètement comment ça se passe, comment ça fonctionne justement. Bon, ça s'est pas fait comme ça, c'est dommage. Mais voilà, on a donc des démonstrations qui sont proposées des démonstrations qui sont proposées en conditions réelles dans des zones urbaines assez denses et notamment en région parisienne. Pour ceux qui conduisent en région parisienne, savent très bien que, enfin, je sais pas, on a plus de la... comment dire, une certaine appréhension de se dire qu'on aurait un véhicule autonome. Je ne sais pas. À voir bien sûr. Bon, il y a quelques vidéos qui existent qui montrent un petit peu tous ces tests qui ont été faits en grandeur nature. Allez, on continue à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique et on continue aussi à écouter un peu de musique sur l'antenne de Graphite. On est tellement bien. Getaway, c'était Meule sur l'antenne de Graphite.
Biotine, Jean-Noël Moreau.
Alors là, il y a une information qui date un petit peu, je crois, de début janvier, qu'on retrouve un peu partout. Ce sont ces chercheurs qui pensent avoir retrouvé une trace d'ADN de Léonard de Vinci sur ses œuvres. Selon une révélation de la revue Science, des chercheurs du projet Leonardo da Vinci DNA, donc l'ADN de Léonard de Vinci, hébergé notamment aux États-Unis, hein, ce projet, ils affirment avoir détecté de l'ADN masculin sur plusieurs artefacts associés à Léonard de Vinci. Parmi eux figure le Saint Enfant, c'est un dessin à la craie attribué par certains historiens à l'artiste, et les résultats qui sont publiés sous forme de prépublications n'ont pas encore été évaluées par des pairs. Donc l'article n'a pas encore été validé, mais ça a fuité un peu et ça fait beaucoup parler depuis quelques jours, hein, depuis un petit peu le début du mois de janvier. La quête du génome de Léonard de Vinci est notamment complexe. Ses restes n'ont jamais pu être formellement authentifiés après les bouleversements de la Révolution française. Il n'a laissé aucune descendance connue et les dépouilles de plusieurs membres de sa famille font encore l'objet de recherches, autant d'obstacles qui rendent l'identification directe de son ADN extrêmement difficile. C'est ce que souligne l'anthropologue et spécialiste de l'ADN, David Caramelli, qui est membre du projet, mais qui n'est pas impliqué dans l'étude. Pour contourner ces limites, l'équipe dirigée par le professeur de biologie cellulaire et de génétique moléculaire qui s'appelle Norberto González Rabé, il a analysé des minuscules échantillons prélevés sur différents objets historiques. Alors, il y a des traces végétales et environnementales qui sont compatibles avec les lieux et les périodes de la vie de Léonard. Donc, les chercheurs ont identifié un profil génétique masculin d'origine toscane qu'ils estiment potentiellement lié à Léonard de Vinci. Plusieurs experts saluent la prouesse technique. Le microbiologiste Manuel Pocar Mirales juge ces travaux, je cite, spectaculaires et techniquement robustes. L'anthropologue John Hawkes compare même la démarche à une enquête criminelle moderne. Retrouver la même signature génétique sur plusieurs œuvres renforcerait progressivement la confiance dans son attribution, mais l'interprétation reste délicate. Les œuvres de Léonard de Vinci ont été manipulées par des générations de contemporains, de collectionneurs, de conservateurs, laissant derrière elles un enchevêtrement d'ADN difficile à démêler. Et donc, retrouver de l'ADN masculin en Toscane ne prouve donc pas qu'il s'agisse de celui de Léonard de Vinci. C'est ce que rappellent ces deux anthropologues et microbiologistes. L'étude n'a par ailleurs pas permis de dater précisément l'ADN, une limite majeure selon l'anthropologue David Caramelli. Il reconnaît lui-même le caractère fragmentaire des données, tout en estimant que ces méthodes ouvrent la voie à de futures recherches. Donc les résultats pourraient gagner en solidité si des restes authentifiés ou si on arrive à retrouver des descendants vivants de la lignée, était un jour justement clairement identifié, ce qui est pour l'instant pas le cas. En attendant, ces analyses offrent déjà un éclairage inédit. Chaque œuvre pourrait conserver la mémoire biologique d'un réseau humain et environnemental relevant un peu plus le monde dans lequel évoluait Léonard de Vinci. Donc voilà, des chercheurs qui pensent avoir trouvé une trace d'ADN de Léonard de Vinci sur ses œuvres. Bon, pour l'instant, c'est une annonce qui intrigue. Ça enthousiasme certains scientifiques, ça laisse les plus prudents sur leur garde. Donc voilà, c'est pas encore clairement confirmé. Mais bon, ça a un peu fuité et ça a fait beaucoup parler il y a quelques jours, bien sûr. Au niveau médical, il y a pas mal de choses que l'on voit également. Alors, je voulais un petit peu parler de cet article de Futura Science qui était assez intéressant concernant l'effort que l'on peut avoir et l'impact sur la santé. Avec la question de savoir que si prendre soin de sa santé ne demandait pas forcément des heures d'effort. Il y a beaucoup qui, depuis, il y a plein qui prennent des résolutions en début d'année, évidemment. Eh bien, il y a une étude récente qui a été publiée dans la revue International Journal of Cancer qui montre que le corps réagit très vite à l'activité physique, parfois en quelques minutes seulement, avec des effets bien plus profonds qu'on ne l'imagine. L'étude a été menée par des chercheurs de l'université de Newcastle qui s'est intéressé, alors ça a porté sur 30 personnes qui étaient âgées de plus de 50 ans, qui étaient en surpoids mais en bonne santé. Et donc après un court échauffement, les participants ont réalisé environ 10 minutes de vélo à une intensité suffisante pour provoquer un essoufflement. Il y a ensuite des échantillons de sang qui ont été prélevés avant et immédiatement après l'effort et on a analysé tout ça en laboratoire. Les chercheurs ont mesuré 249 protéines circulantes. Résultat, il y en a 13 d'entre elles qui ont vu leur concentration augmenter de manière significative après l'exercice. Hein, on a fait une prise de sang juste avant l'effort et une juste après. On a analysé un petit peu ce sang. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait 13 protéines qui avaient été produites en grande quantité d'une façon assez rapide. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de ces protéines sont impliquées dans la réduction de l'inflammation, le fonctionnement des vaisseaux sanguins et le métabolisme énergétique. Selon le docteur Sam Orange, qui est le maître de conférence en physiologie, l'exercice ne bénéficie pas seulement aux tissus sains, je vais y arriver, il envoie aussi des signaux puissants dans le sang. Et donc ces signaux qui sont transportés par le sang, par la circulation sanguine, semblent capables de créer un espèce d'environnement moins favorable à la croissance des cellules cancéreuses, et ce, immédiatement après l'activité physique. C'est ça qui est assez intéressant. C'est-à-dire que parmi les molécules qu'on a observées, il y en a une qui attire particulièrement l'attention pour son rôle dans la réparation de l'ADN. C'est un mécanisme essentiel pour limiter les mutations des cancers. Et les chercheurs sont allés encore un peu plus loin. Le sérum sanguin qui est prélevé après l'effort a été appliqué à des cellules cancéreuses du côlon qui étaient cultivées en laboratoire. Et résultat, l'activité de plus de 1300 gènes a été modifiée. Il y a certains gènes liés à la réparation de l'ADN et à la production d'énergie qui ont été activés, tandis qu'il y en avait d'autres qui étaient associés à une croissance rapide et agressive des cellules cancéreuses qui ont été ralenties. Donc c'est quand même des découvertes assez intéressantes. Il y a un gène clé qui est impliqué dans la réparation de l'ADN endommagé, qui a notamment été stimulé, donc c'était assez étonnant, en tout cas imprévu. Même une seule séance peut faire la différence, c'est ce que explique le docteur Orange, qui exerce notamment au sein de l'hôpital de Newcastle. Le cancer colorectal reste l'un des plus fréquents en France comme au Royaume-Uni, avec plus de 45 000 nouveaux cas par an. Et on estime que l'activité physique régulière réduit le risque d'environ 20%. Cette étude, en fait, elle apporte une explication biologique claire à ce chiffre. Et c'est ça qui est intéressant sur cette étude. Donc les chercheurs rappellent que l'activité physique ne se limite pas au sport intensif ou aux séances en salle, parce que le fait de marcher d'un bon pas, de faire du vélo pour se déplacer, de jardiner, de monter les escaliers, de faire le ménage, d'exercer une activité professionnelle physiquement engageante, tout ça participe aussi à stimuler l'organisme. Et donc à l'avenir, les chercheurs souhaitent vérifier si des séances répétées produisent des effets durables et comment ces mécanismes pourraient compléter la chimiothérapie ou la radiothérapie. Et donc ces découvertes ouvrent la voie à de nouvelles approches qui pourraient imiter ou amplifier les effets de l'exercice, c'est ce que conclut le docteur Orange. Donc voilà, c'est vraiment assez intéressant parce que on se rend compte que une simple séance flash un peu de sport active des mécanismes de réparation de l'ADN qui permettent au corps de devenir en un instant le pire ennemi du cancer. Et donc, alors évidemment, on est sur une recherche qui est menée sur une trentaine de personnes. Donc, il va falloir bien sûr un petit peu approfondir tout cela, mais en tout cas, ce sont des découvertes qui sont assez inattendues, on va dire. Enfin, en tout cas, les résultats sont assez inattendus. Donc voilà, c'est peut-être des bonnes résolutions qu'il fallait prendre en ce début du mois de janvier. Autre bonne résolution, c'est toujours écouter un peu de musique sur l'antenne de Graphite.
I was born and then I took my place. The natural order should be rearranged. Punish me, don't punish her. Expectations can be quite absurd, and all the comments say she should have seen it as a warning sign, but it's so easy from an armchair view. She should have seen it as a warning sign, but it's so easy from a hindsight view. Score.
listen to her, don't listen to me. Her past protected by official decree, and all the comments say she should have seen it as a warning sign. But it's so easy from an armchair view. She should have seen it as a warning sign. But it's so easy from a hindsight view. Who am I to define what I can't see?
Armchair View, c'était Maxime Oparc sur l'antenne de Graphite.
Jean-Noël Moreau, Guillotine sur Graphite.
Alors on parlait de médecine, on va continuer avec cette autre annonce, étude qui a été menée concernant la maladie de Parkinson, hein, qui est une maladie neurodégénérative qui se caractérise par la perte de neurones dopaminergiques. Cette mort cellulaire est liée à l'accumulation d'une protéine qui se propage de neurone en neurone. Et cette protéine, elle est présente en quantité abondante dans le cerveau humain sans que cela soit pathogène. Mais chez les personnes qui sont atteintes de la maladie de Parkinson, eh bien, elle prend une forme un peu anormale. On dit qu'elle est mal repliée, elle se multiplie dans le cerveau. Et donc, dans une étude qui a été publiée dans la revue Nature Communications, des chercheurs ont pour la première fois identifié ce mécanisme de propagation et donc ciblé ce mécanisme de propagation. Grâce à un traitement, ça pourrait essayer de freiner l'évolution de la maladie. C'est tout l'enjeu. Et donc, on a essayé d'en savoir un petit peu plus. Il y a deux protéines qui jouent un rôle majeur dans le transport et la propagation de cette protéine initiale qui est un peu mal repliée dans le cerveau. Donc, c'est un mécanisme intimement lié à la maladie de Parkinson. L'accumulation de cette protéine dans les cellules motrices du cerveau, ça provoque des symptômes tels que les troubles moteurs, des tremblements, des problèmes d'équilibre et un ralentissement des mouvements. Et à mesure que cette protéine mal repliée se propage entre les neurones, eh bien ces symptômes s'aggravent. Donc pour vérifier leur hypothèse selon laquelle cette protéine est capable de pénétrer de nouvelles cellules en se liant aux protéines de surface, eh bien le chercheur Stephen Streitmeier et son équipe ont créé des lots de cellules, plus de 4000, et chaque lot exprimait différentes protéines de surface. Et ils ont ensuite observé si ces protéines de surface se liaient à cette protéine initiale mal repliée. Et les chercheurs ont mené leur enquête et ils ont constaté que la plupart des protéines de surface ne se liaient pas. Toutefois, ils ont observé qu'il y en avait 16 qui arrivaient à se lier. Parmi elles, 2 étaient présentes dans les neurones dopaminergiques humains de la substance noire. En fait, c'est cette zone du cerveau qui dégénère dans la maladie de Parkinson. Plus précisément, en fait, l'étude, elle explique que les protéines qui vont jouer un rôle majeur dans le transport de cette protéine initiale mal repliée, on arrivait à confirmer ce rôle-là. On avait réussi un petit peu à identifier qui arrivait à transporter cette protéine mal repliée. Et suite à cette découverte, les chercheurs ont voulu vérifier ce mécanisme sur des souris. Ils ont donc modifié génétiquement des souris afin qu'elles possèdent des copies qui ne sont pas fonctionnelles de ces deux protéines transporteuses. Et ils ont ensuite introduit la protéine mal repliée, puis ils ont essayé de voir si c'était bien ce phénomène-là qui se mettait en place. Ils ont fait également la même chose sur des souris, on va dire, normales, c'est-à-dire qu'elles sont dotées des deux protéines fonctionnelles. Donc, chez les souris normales, cette protéine mal repliée s'est accumulée dans leur cerveau après son introduction, et les souris ont développé des symptômes similaires à ceux de la maladie de Parkinson. En revanche, les souris qui étaient dépourvues de ces protéines transporteuses fonctionnelles, elles n'ont pas présenté ces symptômes. Donc on s'est dit que finalement, elles n'ont pas réussi à transporter cette protéine initiale qui était mal repliée. Par ailleurs, les chercheurs ont fait savoir que l'inactivation des gènes qui codent pour ces deux protéines de transport, ça contribuait à réduire le risque de décès et la progression des symptômes. Donc c'est vraiment intéressant parce que pour le professeur Streetmeiter, cette découverte ouvre la voie au développement de nouveaux traitements plus efficaces contre la maladie de Parkinson. Si on sait que cette protéine mal repliée, elle est à l'origine de cette maladie et que cette protéine, elle se propage, si on arrive à faire en sorte qu'elle ne se propage pas avec ces deux protéines transporteuses, on peut se dire qu'on peut quelque part avoir une issue plutôt favorable. Et c'est ce qu'ils vont essayer de faire. Les traitements existants visent à réduire les symptômes, mais ils n'empêchent pas la maladie de progresser. Et donc, en ciblant directement la propagation de cette protéine mal repliée, eh bien, il serait possible de ralentir, voire d'arrêter, dit-il, l'évolution de la maladie. Donc, c'est vraiment une recherche assez intéressante de ces chercheurs de l'école de médecine de Yale qui ont donc identifié deux protéines possiblement responsables de la progression de la maladie de Parkinson. Donc, une découverte qui pourrait permettre de développer des traitements pour pouvoir ralentir, voire stopper donc, l'évolution de cette maladie. C'est vraiment prometteur. Donc là aussi, bien sûr, il y a encore... Je veux dire, on n'en est qu'au début de la recherche, mais on est sur une piste qui semble intéressante, qui mérite justement de pouvoir un petit peu plus approfondie. C'est ce qu'ils vont faire. Mais voilà, on est encore dans ce domaine-là du cerveau sur des... Comment dire des... Enfin, sur un monde que l'on découvre encore. On sait très bien qu'au niveau du cerveau, on est sur un territoire que l'on ne maîtrise pas encore totalement. Donc, assez régulièrement dans cette émission, on a des articles qui nous apprennent qu'on apprend de plus en plus de choses. Donc voilà, on est bien sûr encore totalement au début de véritables découvertes assez intéressantes. Mais c'est une piste qui sera à suivre, bien sûr, et on suivra ça dans cette émission. Alors, on arrive bientôt déjà à la fin, ça passe tellement vite, avec quelques petites brèves de science et avenir qui nous parlent notamment du réchauffement climatique qui amplifie l'intensité des vents extrêmes, ce qui représente une menace pour les éoliennes offshore, qui sont un petit peu des piliers de la transition énergétique. La capacité mondiale devrait pourtant être multipliée par 8 pour atteindre presque 500 gigawatts d'ici à 2030. Donc on est sur une phase totalement exponentielle d'installation de ces éoliennes offshore. Sauf que ces infrastructures, elles sont aujourd'hui construites dans des environnements particulièrement hostiles, parce qu'ils sont confrontés en fait à des vents violents, des vagues et des courants océaniques. En 2024, Yaji, le plus puissant typhon automnal jamais enregistré, a ainsi provoqué l'effondrement de 6 éoliennes en Chine. Dans une étude qui a été publiée dans la revue Nature, des chercheurs de l'université de Shenzhen en Chine, analysent plus de 80 ans de données météorologiques enregistrées depuis 1940. Et en fait, ces analyses montrent que la vitesse maximale des vents a augmenté de manière significative dans près de 63% des régions côtières du globe. Il est à noter, c'est ce qu'indiquent les auteurs, que plus de 40% des parcs éoliens offshore en service ou en projet en Asie ou en Europe ont rencontré des vitesses de vent dépassant le seuil de conception des turbines. Celles-ci, elles sont conçues pour résister à des vents allant jusqu'à 135 km/h. Mais à l'avenir, dans le contexte du réchauffement climatique, les modèles qui prévoient que les cyclones tropicaux violents vont devenir plus fréquents, avec des rafales à plus de 180 km/h, eh bien, du coup, ça va faire être assez compliqué pour ces infrastructures. De nombreuses régions à fort potentiel éolien offshore, telles que la Chine, le Japon et les États-Unis, sont situées dans des zones sujettes aux cyclones, ce qui soulève des inquiétudes quant à la résilience des infrastructures, c'est ce que soulignent les auteurs. Ils préconisent donc de les adapter rapidement à des vents en constante évolution, en particulier dans les pays en développement qui disposent d'un potentiel éolien offshore abondant, mais dont les capacités financières et techniques pour exploiter cette ressource sont limitées. Donc, il va falloir que le domaine de l'éolien soit à l'épreuve des vents extrêmes, parce que des vents trop forts vont briser ces éoliennes. Voilà, on se rend compte que finalement, cette technologie, il va falloir maintenant la rendre un petit peu plus robuste, bien sûr, pour que ça soit pleinement efficace. Voilà, et puis comme on est toujours dans la catégorie climat, toujours cette petite brève de Science et Avenir qui nous apprend que si le changement climatique se poursuit au rythme actuel, la saison estivale pourrait s'allonger de plus d'un mois. Il y a des études sédimentaires qui montrent que les vagues de chaleur et de canicules récentes reproduisent celles d'il y a 6000 ans, quand l'été durait près de 200 jours. En cause, la diminution du gradient de température entre l'Arctique et l'équateur qui ralentit les courants d'air et intensifie les vagues de chaleur. Le nombre de jours d'été de plus d'ici à 2100, ce serait 42 jours d'été en plus qu'on aurait à la fin du siècle en Europe. 42 jours d'été en plus. Voilà une illustration encore du réchauffement climatique. Ce sont des études qui nous viennent de l'université de Royal Holloway en Grande-Bretagne. Voilà, et ben c'est avec cette information clairement optimiste que nous allons nous quitter. Je vous retrouve samedi prochain. On va continuer ensemble à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. Je vous remercie de votre attention, de votre fidélité. D'ici là, bien sûr, vous restez fidèles à l'ensemble des émissions de Graphite. On se retrouve samedi prochain à 12h et entre-temps, il y aura la rediffusion de Biotine mardi à 10h. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt. Au revoir.